Radio Libertaire. Nous sommes toujours pour fêter les 40 ans de Radio Libertaire à la salle Olympe de Gouges. Et nous allons retrouver notre ami Nestor qui va nous parler d'Olympe de Gouges, justement.
Nous sommes donc effectivement toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité, mais avec des neurones et des doubles croches en abondance. Et nous sommes dans la salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, dans le 11e. Alors, Olympe de Gouges, c'était qui? Alors, si je prends le ton historien historique, né en 1748 à Montauban, fille de Pierre Gouges, maître boucher à Montauban, et d'Anne à Olympe Mouissier, fille d'une famille de marchands drapiers. Alors, apparemment, notre Marie Gouges était en fait la fille illégitime d'un monsieur nettement plus riche et d'un auteur dramatique qui s'appelait Lefranc de Pompignan, qui réinterviendra plus tard dans la vie d'Olympe de Gouges. Et en 1765, elle a 17 ans, il y a un drôle de bruit qu'on entend, mais bon, ça va peut-être... À 17 ans, donc, la jeune Marie Gouges, eh bien, elle se retrouve mariée, certainement contre son gré, à un homme de 30 ans, son aîné. Coup de chance, cet homme abominable, grossier, inculte, meurt un an plus tard. Et alors là intervient quelque chose d'intéressant. La loi de l'époque interdisait à une femme de publier un livre sans le consentement de son époux. C'est la raison pour laquelle notre Marie Gouges ne se remariera jamais pour pouvoir conserver sa liberté de publication. Alors, incidemment, elle qualifiait le mariage religieux de l'époque de tombeau de la confiance et de l'amour. Alors, incidemment, si vous entendez un fond musical prodigieux, c'est pas du tout un fond musical, c'est la balance de l'émission suivante. C'est pas grave. Au début des années 1770, elle vient à Paris, puis elle se rend compte que Marie Gouze, bof, c'est pas terrible comme nom, et elle prend donc l'un des prénoms de sa maman, Olympe, c'est quand même nettement mieux, et elle décide de s'appeler Olympe de Gouges. Elle rencontre un haut fonctionnaire fort riche qui lui propose de l'épouser, mais elle dit non, à nouveau pour au strict minimum pour la raison que je viens d'évoquer. Ils vont quand même rester ensemble jusqu'à la Révolution, et ça va lui permettre de mener un train de vie tout à fait bourgeois. Et dans les salons qu'elle va fréquenter, elle rencontre des hommes de lettres, des hommes de lettres. Elle se dit que, mine de rien, elle peut faire, elle aussi, tout aussi bien. Et elle va donc bientôt commencer à écrire. Alors, comme elle était veuve et donc libre, bien entendu, c'est l'une des raisons pour lesquelles on va décider, ça sera également le cas pour Théroigne de Méricourt, qu'en réalité, c'était sinon une prostituée, du moins au moins une femme entretenue. Bon, astuce classique contre les femmes qui disent quelque chose qui ne plaît pas aux hommes. Alors, elle monte une troupe de théâtre, avec décor, costumes, tout ce qu'il faut. Un théâtre itinérant. Alors, nous avons là une dame, mais pas de l'espèce humaine. C'est pas grave, qui a fait un peu de bruit.
Elle s'appelle Lucia.
Lucia. Et elle va écrire une pièce qui va la rendre célèbre. Et vous allez tout de suite comprendre. Le titre de cette pièce, ça s'appelle « L'esclavage des Noirs ou l'heureux naufrage ». Alors, c'est une pièce très clairement, complètement anti-esclavagiste. Ce qui va démarrer les ennuis de la vie d'Olympe de Gouges. Pourquoi ? Eh bien, parce que les propriétaires d'esclaves, évidemment, n'apprécient pas du tout qu'on fasse de la propagande anti-esclavagiste. Et il faut rappeler pour ça qu'un grand nombre de familles de la cour de Versailles, eh bien, tiraient une grande partie de leurs revenus des denrées coloniales qui représentaient la moitié du commerce extérieur français à la veille de la Révolution. En 1788, Olympe de Gouges publie un opuscule qui s'appelle, alors évidemment le mot, c'est le mot de l'époque, « Réflexion sur les hommes nègres ». L'espèce d'homme nègre m'a toujours intéressé à son déplorable sort. Ceux que je pus interroger ne satisfirent jamais ma curiosité et mon raisonnement. Quand elle dit ceux, elle parle des blancs, des colonialistes. Ils traitaient ces gens-là de brutes, d'êtres que le ciel avait maudits. Mais en avançant en âge, Je vis clairement que c'était la force et le préjugé qui les avaient condamnés à cet horrible esclavage, que la nature n'y avait aucune part et que l'injuste et puissant intérêt des Blancs avait tout fait. Remarquable. La Révolution française arrive et en avril 1792, en commentant la limitation du droit de vote et d'éligibilité aux citoyens, évidemment pas aux citoyennes, bien sûr, riches et propriétaires, eh bien, elle proteste donc à la fois contre le caractère censitaire de la Constitution et son caractère masculin, patriarcal. Et elle va dire ceci: « Fuyez cette horde confuse, ce mélange effroyable de feuillants, d'aristocrates, d'émissaires de Koblenz, des brigands de tout genre, de tout état, de toute espèce, qui ne fondent leur fortune que sur celle de citoyens propriétaires, c'est-à-dire, elle dit, qui ne fondent leur droit à participer à la vie politique que sur le fait qu'ils sont propriétaires. » Elle devient républicaine pendant la Révolution, mais elle s'oppose à la mort de Louis XVI, et avec le courage qu'on va lui découvrir peu à peu, elle propose d'assister Malesherbes, donc l'avocat qui va défendre Louis XVI, devant la Convention, mais le côté royaliste rejette sa demande avec mépris. Rien d'étonnant. En mars 1993, elle appelle, au nom de la République, tous les courants politiques de la Convention à s'unir. Vous savez que 1793, là, c'est vraiment un moment où, dans la Révolution, les différents courants se tapent dessus, ou plus exactement, se guillotinent les uns les autres. Elle dit ceci: « Montagne, plaine, rolandiste, brissotin, buzotin, girondiste, Robespierreau, maratiste, disparaissez, épithètes infâmes, disparaissez à jamais, et que les noms de législateurs vous remplacent pour le bonheur du peuple, pour la tranquillité sociale et pour le triomphe de la patrie. » Et puis, elle va commencer à réclamer pour les femmes le même statut politique que pour les hommes. Elle considère que les femmes sont capables d'assumer les tâches traditionnellement confiées aux hommes, et ça va devenir un leitmotiv des écrits d'Olympe, de ses écrits. Elle demande absolument à ce que les femmes soient associées à tout. Et alors, en particulier, elle va écrire un texte qui a établi sa célébrité et qui est extrêmement intéressant à lire, à la fois sur le fond et puis sur la forme, parce que ce texte, c'est un pastiche volontaire, bien sûr, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, de temps en temps, son français est un peu bizarre, de temps en temps, ses phrases sont un peu biscornues, il y a des moments où on sourit, et en même temps, c'est complètement fabuleux. Nous sommes quand même en 1793. Alors, je me suis dit que ça valait le coup de le lire. C'est un texte qu'on lit rarement, à la fois avec les yeux et qu'on entend avec les oreilles. Donc, je vais vous le lire. C'est parti. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a décrété par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature. Préambule. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, on résolut d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Article 5. Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par ces lois sages et divines ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas. Article 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et tous les citoyens étant égaux à ses yeux doivent être également admissibles à toute dignité, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article 8. Nulle femme n'est exceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes. Article 9. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. Attends, ça arrive. Article 10. Nul ne doit être inquiété même pour ses opinions même fondamentales, virgule. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Alors bon, ok, il y en a qui ne veulent pas tout entendre, on n'a pas besoin nécessairement de tout entendre. Néanmoins, ce document est absolument fabuleux, puisque c'est la première fois qu'on réclame très clairement, très explicitement, l'égalité des femmes et des hommes. Alors, ce qui va être étonnant, c'est que mine de rien, elle va quand même obtenir des choses étonnantes. Tout d'abord, que les femmes soient admises dans des cérémonies à caractère national, non pas seulement juste comme une actrice représentant la déesse raison ou la déesse liberté, mais réellement comme participante. En particulier, au 14 juillet 1792, les femmes vont donc être admises. Elle continue avec des pièces de théâtre, comme par exemple « Le couvent ou les vœux forcés ». Alors là, le titre lui-même est très évident pour l'époque. Comme vous le savez, en particulier pour les femmes nobles, eh bien, si elles ne trouvaient pas à se marier, la seule chose acceptable, c'était d'être envoyées au couvent. Et les couvents étaient donc remplis, évidemment, de jeunes femmes qui n'avaient absolument pas envie d'être dans les couvents. Elle réclame également, chose tout à fait nouvelle, l'instauration du divorce. Ça, elle l'a demandé dès 1792 dans une pièce appelée directement « La nécessité du divorce ». Elle réclame la reconnaissance des enfants naturels, des enfants nés hors mariage, et elle demande que le mariage ne soit plus un mariage religieux, mais un contrat civil signé entre concubins. Elle réclame encore plus un système de protection maternelle, un système de maternité. Il n'y avait pas de maternité, il y avait des hôpitaux, il n'y avait pas de maternité. Et enfin, elle réclame la création d'ateliers nationaux pour les chômeurs et les foyers pour mendiants. Mais, j'ai donc rappelé cet article célèbre, « La femme a le droit de monter sur l'échafaud », elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Et comme vous le savez sans doute, Olympe de Gouges a été guillotinée. Alors pourquoi a-t-elle été guillotinée? Eh bien, c'est donc le moment où à nouveau la révolution s'accélère. Ça va à très grande vitesse et ça commence à guillotiner à tout va. Et Robespierre, les Montagnards, vont commencer à guillotiner les Girondins. Olympe de Gouges clairement commence à prendre position pour les Girondins Et puis, elle écrit quelque chose qui s'appelle « Les trois urnes ou le salut de la patrie » par un voyageur aérien, et dans lequel on voit une affiche qui demande une élection à trois choix. Enfin, on dirait plutôt un référendum à trois choix. Une république une et indivisible, une république fédéraliste, style girondine, et une monarchie constitutionnelle. Pour avoir proposé ce troisième choix, elle est arrêtée par les montagnards, elle est envoyée au tribunal révolutionnaire. Comme vous le savez, le tribunal révolutionnaire faisait peu, prenait pas beaucoup de gants. Elle n'a pas d'avocat, elle se défend quand même fort bien. Cela dit, elle est quand même condamnée à la peine de mort. Elle avait 45 ans et elle était la deuxième femme guillotinée pendant la Révolution. Il y en aura d'autres après. Parlons maintenant d'une autre femme, d'une autre de ces pionnières du féminisme de la Révolution, et une femme dont à la fois dont le destin, mais surtout dont l'image est extrêmement bizarre. Je m'explique. En 1762, Anne Joseph, elle est la fille de Pierre Théroigne, qui est un laboureur, dans un village appelé Xoris, et d'une dame appelée Elisabeth Laet dans un village appelé Marcourt. Sa mère meurt quand elle a 5 ans, et le père, qui n'a pas envie de s'en occuper, l'envoie dans un couvent. À 12 ans, elle ne supporte plus le couvent. Elle réussit à revenir chez son père, mais son père est remarié, donc elle s'enfuit de chez son père. Elle se retrouve vachère, puis elle devient servante. À 17 ans, elle est remarquée par une femme du monde qui en fait sa dame de compagnie à Anvers. Et c'est là qu'elle va apprendre à lire, à écrire, à chanter, à jouer de la musique. Elle devait avoir un bon filet de voix. Et elle va donc tenter une carrière de chanteuse à Londres. Là, ça ne marche pas très bien. Elle part en Italie. Manque de chance, elle y contracte la syphilis. Et là, je vous rappelle que la syphilis, il y avait un problème à l'époque. On traitait la syphilis au mercure, ce qui n'était pas évidemment le traitement le plus fabuleux. Elle va à Gênes, elle se met pendant un temps avec un castrat italien, mais ensuite elle apprend ce qui se passe, la convocation des États généraux en France par Louis XVI, et donc elle arrive en France. Et là, elle va droit à Versailles. Alors, quand je dis qu'elle va droit à Versailles, c'est bien entendu qu'elle va aux États généraux. Et il se trouve qu'elle est alors la seule femme dans les tribunes admise à assister au débat. C'est à ce moment-là qu'elle décide de se vêtir en Amazone. Elle aura trois costumes, un blanc, un rouge, un noir. Et dans sa légende, elle ne sera habillée qu'en Amazone rouge, évidemment, pour qu'elle devienne une bacchante sanguinaire. C'est là qu'elle va prendre le nom d'Anne-Joseph Théroigne, qui est donc la forme francisée du nom wallon Terwagne, et qui était le nom originel de sa famille, mais son papa s'appelait lui aussi Théroigne. Alors attention, le 5 et le 6 octobre 1789, je présume que vous le savez toutes et tous, c'est le moment où un cortège parti de Paris arrive à Versailles pour ramener le boulanger, la boulangère et le petit mitron à Paris. Elle était déjà à Versailles, et donc elle n'a absolument pas fait partie du cortège. Dans la légende de Théroigne de Méricourt, c'est une amazone sanguinaire réclamant que tout le monde meure, dirigeant le cortège. Non, désolé, elle n'a pas fait partie de ce cortège. Bon, le boulanger, la boulangère, le petit mitron reviennent à Paris. L'assemblée constituante va également à Paris, donc Théroigne suit l'Assemblée et s'installe à Paris. Alors elle va tenir salon et le gratin de la Révolution va se retrouver dans ce salon. Alors Sieyès, Camille Desmoulins, Pétion, Brissot, Fabre d'Églantine, Saint-Just. Et là, comme elle est l'une des très très rares femmes à être un tout petit peu connue dans la Révolution, elle devient la cible de ce qu'on appellerait maintenant une campagne médiatique. Elle devient la cible des journalistes contre-révolutionnaires. Alors, vous savez ce que c'était? C'était ce journal appelé « Les Actes des Apôtres ». Et il y a en particulier un gars, le chevalier de Chancenay, qui devient complètement obsédé par elle. C'est lui qui lui trouve ce surnom de Théroigne de Méricourt. Elle voulait s'appeler Anne-Joseph Théroigne, donc il l'appelle Théroigne de Méricourt. Et un autre journaliste va décider quelle est la putain du député Populus. Alors évidemment, il y avait un vrai député qui s'appelait vraiment Populus. Et bien entendu, quand on dit Populus, on pense le peuple. Et donc, évidemment, il fait de Théroigne la putain du peuple. Et pour citer une phrase typique, « Pute patriote dont 100 amants par jour payaient chacun 100 sous en contribution à la Révolution, gagnée à la sueur de son corps ». Ça, c'est donc noir sur blanc, et c'était quasiment dans chaque numéro des Actes des Apôtres. C'est à ce point que l'auteur d'un ouvrage pornographique compte bénéficier de cette réputation. Et donc, dans la deuxième édition d'un truc appelé « Le catéchisme libertin », eh bien, l'auteur enlève son nom et lui substitue par « Mademoiselle Théroigne ». Alors après, il y a un moment un petit peu compliqué, bizarroïde. Vous savez que la Révolution a oscillé. Il y a eu des moments un peu plus réac. Et va y avoir une accusation contre Théroigne de Méricourt, comme quoi, pendant ces journées du 5 et du 6 octobre, elle aurait fait des choses abominables. Alors, elle fuit Paris. Elle se réfugie à Liège. Mais là, à Liège, un groupe d'émigrés français la kidnappe et l'envoie pour être jugé par les Autrichiens. Liège était à l'époque, sous domination des Autrichiens. Elle va donc être envoyée dans une forteresse dans le Tyrol. Et là, elle va s'en tirer brillamment en disant « Mais oui, il n'y a pas de doute, je suis bien une respectueuse sujette de Sa Majesté l'Empereur autrichien ». Et c'est brillamment expliqué dans le livre que Elisabeth Roudinesco a consacré à Théroigne. Elle va se débrouiller pour être finalement remise en liberté. Ça va augmenter sa popularité. Elle revient fin 1791 à Paris, en 1792. Elle fait une entrée triomphale aux Jacobins. Et elle s'affirme donc républicaine contre les royalistes, seulement voilà. Elle s'affirme également contre la bourgeoisie qui souhaite que la femme reste au foyer. Et là, évidemment, ça va coincer. Alors, parmi les choses qu'elle va réclamer, par exemple, devant quelque chose qui s'appelait la Société fraternelle des Minimes, elle invite les citoyennes à prendre les armes. Des femmes qui prennent les armes? Ah non! Alors elle dit, brisons nos fers, il est temps enfin que les femmes sortent de leur honteuse nullité, où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservies depuis si longtemps. Elle appelle également à la levée en masse, non pas seulement des hommes, mais bien des femmes, et il faut donc qu'elles réclament, qu'elles prennent leur part dans la défense de la patrie attaquée. Le 10 août 1792, voilà le moment où là, pour le coup, vraiment, elle participe à un moment violent de la Révolution, puisqu'elle participe à l'invasion du palais des Tuileries. Alors, toujours ce pelletier, comme chansonné, obsédé par Théroigne de Méricourt, a prétendu qu'elle aurait lynché de ses mains l'un des journalistes qui se trouvait, l'un de ces journalistes royalistes qui se trouvait justement là-bas, un gars appelé Sulot. Du tout, ça n'est absolument pas vrai. Elle ne le connaissait pas, elle n'aurait jamais pu l'identifier. Cela dit, c'est une calomnie qui va donner encore plus de force au mythe d'une Théroigne de Méricourt sanglante, sanguinaire. Au contraire, Théroigne va prendre souvent la parole un peu après pour essayer que la Révolution soit moins sanglante et à nouveau pour que les femmes y jouent un rôle beaucoup plus important. D'ailleurs, dans ce but, au printemps 1793, elle propose d'instituer dans chaque section une magistrature de 6 citoyennes. Alors incidemment, ça va sembler une digression, ça n'en est pas une. Je vous rappelle qu'au Rojava, maintenant au Rojava, eh bien, les femmes organisées encore ont un droit de veto sur toutes les décisions des communes si elles estiment que ces décisions sont contraires aux intérêts des femmes. Seulement voilà, le 13 mai 1793, à l'Assemblée, comme elle est accusée de soutenir Brissot, chef de file des Girondins, eh bien, des femmes jacobines lui tombent dessus, la dénudent et la fessent publiquement. Et c'est Marat qui va intervenir pour que cette agression ne devienne pas encore pire. Alors, pour plusieurs auteurs masculins, Jules Michelet, Edmond et Jules de Goncourt, l'humiliation de cette agression serait à l'origine de ce qui va devenir sa folie et l'aurait fait basculer dans un délire de persécution. Rudinesco, une femme, est beaucoup plus nuancée. Elle rappelle entre autres choses que Théroigne, à ce moment-là, pourrait avoir commencé à souffrir des conséquences neurologiques gravissimes, comme on le sait, de la syphilis. Une chose est sûre, au printemps 1794, son frère réclame sa mise sous tutelle et la fait interner. Alors qu'est-ce que ça a voulu dire, la faire interner ? C'est qu'on l'a envoyée dans ce qui était la poubelle à femmes. Alors je présume que beaucoup d'entre vous savent ce que c'était que cette poubelle à femmes. C'était la salpêtrière, donc quelque chose qui a été créé sous Louis XIV et dans lequel on jetait, il n'y a pas d'autre mot, toutes les femmes marginales, réprouvées, réprouvables ou peu désirées ou désirables. Alors il y avait les athées, il y avait les avorteuses, il y avait les protestantes, il y avait souvent tout simplement les femmes dont les maris ne voulaient plus et qu'il suffisait qu'ils accusent leurs épouses d'avoir été adultères. Et monsieur le lieutenant de police, très gentiment, disait « mais il n'y a pas de problème, on l'envoie à la salpêtrière ». Il y avait évidemment les prostituées, il y avait les malades, il y avait les vraies folles. Et nous sommes donc, elle est donc envoyée à la salpêtrière et elle va y rester tout simplement 23 années et elle y mourra.